Nous saluons tous et toutes dans le nom du Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu. Dans cette période de Noël, il est de coutume de lire des textes qui nous rappellent l'incarnation de la seconde personne de la Trinité. Et j'espère que vous avez déjà lu ces textes à la maison, que vous n'avez pas attendu simplement qu'on les lise ici, mais que vous vous en êtes imprégné, parce que le Seigneur est digne que nous soyons comme Marie, que nous repassions et que nous gardions ces choses dans notre cœur. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 2, et nous allons lire attentivement le texte, Matthieu, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous conduire dans ta parole, nous éclairer, illuminer nos cœurs par ton esprit, afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi, pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. Amen. Les scènes, n'est-ce pas, on appelle ça les scènes de la nativité, sont peut-être les plus représentées hein, dans des tableaux, dans beaucoup de choses. Les personnages de la nativité, les bergers, Siméon, Anne, les mages, sont aussi sans doute les plus connus et puis les plus représentés sur nos cartes postales ou peut-être même dans nos cantiques. Et nous avons chanté des cantiques aujourd'hui, nous avons parlé des bergers, nous avons parlé des mages. Et donc ils sont très 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 représentés dans ce tuto. Bon, ils sont bien connus en tout cas. Et on a traditionnellement pris l'habitude de représenter les choses. Certaines personnes mettent des crèches chez elles avec des figurines qui représentent Marie, Joseph, les bergers, et puis aussi les mages. Le texte que nous avons lu concerne donc ces mages-là. On a pris l'habitude de les représenter au nombre de trois, à cause probablement des cadeaux, parce qu'il est dit qu'il était offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et parfois, on leur donne même des noms. Melchior, Gaspard et Balthazar. Donc, ils sont représentés souvent, parfois, en même temps que les bergers. Souvent, on voit des crèches et puis on voit des mages, des figurines qui représentent les mages. Et même, on les représente comme des rois aussi, parce que parfois, ils ont une couronne sur la tête et cela vient peut-être du fait qu'ils ont offert des cadeaux de grand prix. Alors, qui d'autre que des rois peuvent offrir des cadeaux de grand prix? Mais la Bible ne dit rien de tout cela. Tout ça, c'est des choses qui sont nées, qui sont des traditions. Ces personnes qui sont venues d'Orient sont simplement identifiées comme des mages. Et c'était le nom ici donné par les Babyloniens, les Chaldéens, les Mèdes, les Perses, aux hommes, on appelait parfois les hommes sages, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, on a parlé de savants, des hommes sages, qui enseignaient aussi, mais qui observaient probablement les astres. Et le mot parfois désigne aussi, comme dans l'Ancien Testament, si vous regardez Daniel chapitre 2, les questions de magiciens. Pas forcément des gens qui font des choses occultes, mais des gens qui peuvent interpréter des choses. Hein. Et c'est tout ce que l'on sait en gros d'eux. Mais quant à leur nombre, on n'en sait rien du tout. Ils sont venus, nous dit le texte, si vous avez bien lu, ils sont venus à Jérusalem à cause d'une étoile qu'ils ont vue. Nous avons vu son étoile. Et là aussi, l'étoile a donné lieu à beaucoup de spéculations, beaucoup de pensées diverses ont circulé à propos de cette étoile. Certains ont parlé peut-être que c'était une comète qui avait traversé le ciel. D'autres ont dit peut-être que c'était un phénomène astronomique. On a parlé de conjonction de deux planètes, planètes qui sont proches, qui a donné quelque chose de visible, d'assez grand dans le ciel. Et puis d'autres aussi, d'autres érudits ou théologiens avancent plutôt l'idée que l'étoile était peut-être simplement un phénomène miraculeux, que Dieu a utilisé pour attirer ces hommes. Une apparition miraculeuse comme lorsque la Shekinah apparaissait dans le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait cette présence de Dieu qui était manifestée qui guidait le peuple. Et c'est probablement, pense beaucoup, quelque chose comme cela. Mais il faut remarquer que Matthieu ne donne pas beaucoup de détails là-dessus. Et s'il ne donne pas beaucoup de détails là-dessus, c'est probablement parce que là n'est pas l'important et que l'important est probablement ailleurs. Donc c'est important pour nous de ne pas rater peut-être ce que Matthieu veut montrer à travers cela et de ne pas nous perdre peut-être dans des spéculations et des détails là où la Bible ne donne rien. Quoique c'est une sagesse que de ne pas trop spéculer, de ne pas chercher souvent à spéculer, là où la Bible reste silencieuse. On doit se rappeler, je pense, le but de Matthieu quand il écrit son évangile. Son but, on l'avait vu quand on avait étudié, en tout cas une partie de l'évangile de Matthieu, est de montrer que Jésus est bien le roi qui doit venir et qu'il est le Messie attendu. Il s'adresse, on avait vu premièrement aux Juifs, et si vous regardez l'Évangile, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Et le passage de Jésus en Palestine avait laissé probablement beaucoup d'interrogations à ces Juifs qui étaient en attente d'un libérateur, quelqu'un qui allait les délivrer, peut-être politiquement. Et là, à l'époque où Jésus vient, ils étaient dans cette attente du libérateur politique. Et les avis sur la personne de Jésus, le Jésus historique ici, étaient très partagés, parfois diamétralement opposés. Et même quelqu'un comme Jean-Baptiste a eu parfois, si vous vous rappelez, des doutes. Et à un moment, il envoie dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 11. Donc il est ébranlé par ce qu'il voit, ou peut-être par ce qu'il ne voit pas tout à fait, qui se réalise d'après sa connaissance de l'écriture. Mais Jésus lui-même soulevait aussi l'importance de son identité. En Matthieu 16, par exemple, verset 13, il dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il voulait amener ses disciples à réfléchir vraiment sur qui il était. Donc l'évangile de Matthieu, ne doit pas oublier cela, est écrit pour montrer que Jésus est bien celui qui doit venir, il est bien le Messie qui a été annoncé par les prophètes. Et au chapitre 21, Matthieu dit ceci, il cite Zacharie 9:9 et il dit: dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Hein, donc là, il est en train de dire, voilà, ce Jésus qui est là, qui a vécu, le Jésus historique, parce qu'il écrit du temps après, est bien celui qui avait été annoncé. Il est bien le roi, le Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc, ce que nous voulons voir ce matin, si c'est un peu puisque le texte en parle, bien sûr, c'est cette adoration du roi. Matthieu montre que Jésus est digne d'adoration. C'est ce qu'il est en train de montrer ici avec ce texte. Et j'ai intitulé ce message « L'adoration des mages et la nôtre ». Et notre adoration, l'adoration des mages et la nôtre. On va commencer par voir plusieurs choses peut-être que Matthieu relève ici. Premièrement, dans notre texte, il relève que Jésus est le roi. C'est ça qui saute aux yeux, je crois, à toute première lecture de ce passage. Il dit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, et voilà la question qu'ils ont sur les lèvres ici, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc c'est une... voilà, il montre qu'il y a des gens qui sont venus à l'époque de la naissance de Jésus et ils ont cherché Jésus en tant que roi des Juifs. Et donc, il affirme vraiment que Jésus est le roi des Juifs. Il montre en réalité que cette royauté-là, eh bien, elle appartient vraiment à celui, à cet enfant qui est venu à ce moment-là. Matthieu montre la réalité de cette royauté, je crois, par le trouble que cela a suscité. Regardez le verset suivant, il dit « Quand les mages viennent et puis qu'ils disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, eh bien, verset 3 dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Donc, faut se souvenir qu'Hérode n'était pas un Juif, hein. On pourrait dire qu'il était un Juif d'adoption. Il était descendant d'Édom. Il avait été placé à Rome. Il avait été placé à Jérusalem par Rome. Hein. Et donc il a cherché, on disait cela un petit peu mardi soir, il a cherché à gagner beaucoup la sympathie des Juifs. Il a même entrepris et reconstruit le temple. Donc il a fait pas mal de choses, on pourrait dire, satisfaisantes, bonnes. Et donc il semble qu'il ait été assez populaire auprès du peuple juif. Mais il a été aussi, et on ne doit pas l'oublier, un personnage extrêmement avide de pouvoir, et puis un personnage sanguinaire. Hein, il a fait tuer sa femme, il a fait tuer son frère, il a tué sa mère et plusieurs de ses fils. Et quelqu'un avait même dit qu'il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Tellement il était violent. Le cochon avait plus d'espoir de vivre que le fils, parce qu'il éliminait tous ceux qui pouvaient être un obstacle pour lui. Et quand on lit le passage, on n'a pas lu jusqu'au bout le chapitre 2, mais quand on lit un peu plus loin, on se rappelle du massacre qu'il a perpétré lorsqu'il a voulu se débarrasser du Messie, faire tuer Jésus, où il a donné l'ordre de tuer tous les enfants versets 16 et 18, tous les enfants qui avaient 2 ans et moins de 2 ans. Donc c'était un roi vraiment cruel. Et il avait reçu, en fait, du Sénat, Rome, le titre de roi des Juifs. Alors vous pouvez imaginer, c'est le titre qui lui était donné par Rome, et il était placé à Jérusalem en tant que roi des Juifs, et il voit des gens qui viennent, je ne sais d'où, avec probablement des choses, et qui disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit qu'il est troublé lorsqu'il entend cela, et tout Jérusalem avec lui, peut-être parce qu'ils ont vu, mais peut-être parce que, je sais pas, ils sont troublés parce que le roi est troublé, ils savent que si le roi est troublé, vous savez, quand parfois il y a des rois sanguinaires, quand le roi éternue, eh bien, tout le monde s'enrhume, hein, et c'est la catastrophe peut-être pour tous, je sais pas exactement pourquoi tout Jérusalem était troublé, mais en tout cas, lui, il est profondément troublé, et il va entrer ici dans une quête, il va rechercher où est ce roi qui vient de naître. Il ne lui importe pas de savoir qui il est, mais surtout où il est. Parce que son intention, c'est de le tuer. C'est quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Le Messie, promis, dès les temps anciens, le Fils de Dieu incarné. Voilà cet homme, cet humain, hein, qui a ce désir de tuer celui qui est le Messie, le Sauveur du monde. C'est assez étrange, n'est-ce pas, comme pensée. Mais en tout cas, Matthieu montre ici, hein, en cela que Jésus est vraiment le roi qui devait naître, qu'il est vraiment le Messie. Et c'est ça qu'il, je crois, montre en premier à travers ce texte. Il montre aussi que Jésus accomplit les prophéties de l'Écriture, toutes les prophéties de l'Écriture, même les plus petits détails de la prophétie des Écritures. Il dit ici, Hérode fait assembler tous les principaux sacrificateurs et les scribes, le peuple, et il s'informe auprès d'eux d'où le Christ devait naître. Ils lui dirent, Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Et ça, c'est une citation de Michée, chapitre 5, verset 1. Et Matthieu montre que même la ville où Jésus devait naître a été prophétisée, et Jésus est né exactement comme la prophétie l'avait annoncé. Tout au long de son évangile, Matthieu fait appel à l'Ancien Testament pour prouver que tout ce qui concerne Jésus a été prédit dans l'Ancien Testament et que Jésus accomplit parfaitement toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup d'expressions comme dans l'évangile de Matthieu, comme afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé parfois par le prophète. Donc il montre que Jésus historique, dont il parle ici, n'est pas issu de son imagination, mais qu'il est ancré d'une part dans l'histoire, parce qu'il était là, né à Bethléem au temps où Hérode était roi, donc un ancrage historique, mais ici aussi il y a un ancrage, pourrait dire, scripturaire, prophétique aussi, parce que il est celui qui accomplit tout ce que l'Écriture a annoncé d'avance. La manière de sa naissance, alors l'évangile de Matthieu commence avec la généalogie, hein, de Jésus pour montrer qu'il est vraiment, hein, de la lignée davidique, qu'il est le roi qui doit venir et descendant de David, montrer sa royauté. Mais et au chapitre 1, il dit même que la manière de sa naissance est l'accomplissement de l'Écriture. Hein. Matthieu chapitre 1, verset 22, regardez comment il écrit, il dit « Voici ». Verset 18, il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ ». Et puis, il va développer cette naissance, et au verset 22, il dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, et il cite Ésaïe ici, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Sa naissance, la manière même de sa naissance, il dit « Cela a été écrit et s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. » La ville de sa naissance, donc c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 2, versets 5 et 6, la ville même de sa naissance est l'accomplissement aussi des Écritures. Mais il va dire même que tous les événements autour de sa naissance sont aussi l'accomplissement des Écritures. Alors si vous regardez par exemple au chapitre 2, au verset 15, on n'a pas lu tout à l'heure, mais il dit, verset 14, « Joseph se lève et puis il part de nuit avec le petit enfant et sa mère et il se retire en Égypte, parce que Hérode, voilà, veut leur faire du tort. Et au verset 15, il dit, « Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Il cite encore un texte de l'Ancien Testament. Et il dit que cela concerne Jésus-Christ, qui a été appelé hors d'Égypte. De même que Israël, vous vous rappelez, avait été appelé hors d'Égypte. Le peuple d'Israël avait été amené en Égypte. Alors bien sûr, c'était à cause de la cruauté des frères de Joseph. Mais plus tard, Joseph dira à ses frères, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici afin de vous sauver la vie. Vous vous rappelez ce qu'il dit, hein, Joseph? Il dit, ce n'est pas vous. Il dit, ne soyez pas tristes parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici afin de vous sauver la vie. Et la vie qui était sauvée, c'est la vie de Judas qui est dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et bien de même ici, on voit Dieu prend soin de son fils, l'envoie en Égypte. Donc ce qui a été fait même avec Israël était une préfiguration de ce que Dieu fait ici avec Jésus-Christ, hein, qu'il envoie en Égypte pour protéger sa vie et qu'il rappelle après ici hors d'Égypte. Et Matthieu dit ça, c'est l'accomplissement même de ce qui a été écrit par le prophète Osée. Mais même la cruauté d'Hérode, à la période de la naissance de Jésus est aussi l'accomplissement de la prophétie, en tout cas la douleur qui a existé à cause de cette cruauté. Verset 16 du chapitre 2, il dit « Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages », parce que les mages ne reviennent pas bien sûr pour lui dire où l'enfant se trouvait, ils sont partis divinement averti par un autre chemin. Verset 16, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous et qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il dit même cette douleur, cette situation a été aussi prophétisée dans l'Écriture. Donc tout ce qui concerne Jésus, sa naissance, son lieu de naissance, les circonstances même qui entourent sa naissance, tout cela, dit Matthieu, est écrit dans les Écritures. Et donc Jésus accomplit ce Jésus historique accomplit ce que l'Écriture a annoncé, bien sûr, d'avance. Hein. Et quand on regarde même la vie de Jésus, hein, il a fait tout ce qu'il a fait, était un accomplissement, hein, on trouve beaucoup d'exemples de ce que l'Écriture a annoncé. Il a guéri des malades, et la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, où il dit qu'il a guéri, etc. Et l'apôtre Paul dit que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité selon les Écritures. Lorsque Jésus était à la croix et puis qu'il est en proie à la souffrance, la Bible dit, afin que l'Écriture s'accomplisse, il dit, j'ai soif. Et donc toute la vie de Jésus n'a été que l'accomplissement des Écritures. Et c'est tout ce que Matthieu montre, que déjà dès l'instant de sa naissance, eh bien, il accomplissait ce que disait l'Écriture. Troisièmement, on peut voir aussi que Matthieu montre les interventions, on pourrait dire, surnaturelles de Dieu, le Père, à l'égard de son Fils incarné. Les interventions surnaturelles de Dieu à l'égard de son Fils incarné. Dans notre texte, on peut relever plusieurs fois des interventions surnaturelles de Dieu à l'égard de Jésus-Christ. Les mages disent déjà, nous avons vu son étoile. C'est quelque chose, hein, on pense que c'est quelque chose de miraculeux qu'ils ont vu, que Dieu s'est manifesté d'une manière spéciale, miraculeuse, afin de révéler des choses à ces hommes. Qu'ont-ils vu réellement? Le texte ne le dit pas, mais on comprend que Dieu est intervenu de manière surnaturelle pour mettre ces hommes en mouvement vers Jésus-Christ. Si vous regardez le verset 10 de notre chapitre 2, il est dit « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande frayeur. » Puis, pas le verset 10, je pensais plutôt verset 12. Verset 12, il dit « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, les mages ont regagné leur pays par un autre chemin. » Encore là, une intervention miraculeuse de Dieu. Ils sont divinement avertis. Le texte ne précise pas dans quel terme, mais ils sont divinement en tout cas avertis. Verset 13, il dit « Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. » Verset 19, on lit encore « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. » Et puis au verset 22 encore, il est dit « Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur Judée à la place d'Hérode son père, alors Joseph craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. » Et on pourrait lire encore beaucoup, on trouve tout autour de des scènes de l'incarnation, il y a beaucoup d'interventions surnaturelles de Dieu. L'ange, on a lu ce matin, qui apparaît à Marie, l'ange qui apparaît à Zacharie, l'ange qui parle à Joseph qui est en train de méditer en songe parce qu'il voulait rompre secrètement, etc. Donc Dieu intervient de manière particulièrement miraculeuse. Et c'est important de noter cela. Je pense que Matthieu le souligne pour montrer qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe ici. Et quelqu'un faisait remarquer que la Bible est un livre, on le disait avant, de miracles. Il y a des miracles de la première page à la dernière page. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de miracles dans la Bible, mais les miracles sont localisés seulement en trois endroits particuliers. Vraiment, à l'époque de l'Exode un peu, et puis au moment où la révélation avec les prophètes arrivait un petit peu, et puis à l'époque de Jésus. Sinon, c'est vrai que dans Apocalypse, on voit encore des choses, mais le moment où il y a le plus de manifestations d'anges, c'est vraiment lors de la venue de Jésus. Et la Bible souligne même que le ministère de Jésus a été soutenu, Dieu a attesté qu'il était vraiment le Fils de Dieu en opérant par lui des miracles. C'est ce que Pierre dit dans sa prédication à la Pentecôte, il dit « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, par des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Et c'est un moment où Dieu a fait des choses surnaturelles, extraordinaires, pour attester vraiment qui était Jésus. Et le fait qu'il appelle ces hommes de là où ils sont est une intervention encore qui vont faire tout ce trajet, probablement des jours et des jours et des jours jusqu'à arriver à Jérusalem pour adorer le Messie. Dit encore, c'est une intervention miraculeuse de Dieu pour montrer vraiment, pour attester vraiment que Jésus est bien celui qui devait venir. Et puis, quatrièmement, on peut souligner aussi que Matthieu montre la souveraineté de Dieu dans la révélation de son Fils. Dieu demeure souverain dans la manière de révéler aux hommes, autant que souverain dans le choix des hommes à qui il se révèle. Et il choisit Bethléem, plutôt que Jérusalem. Les mages, ils vont tout naturellement à Jérusalem. Où est-ce que peut naître un roi en Israël, sinon à Jérusalem? Si on vient en France et qu'on veut voir le résident, on va à Paris. On ne va pas à Saint-Denis ou à Moissel, hein, je ne sais pas. On va vraiment dans la capitale, ici. Mais Dieu a choisi Bethléem, une petite bourgade. Il a choisi des personnes, souvent de conditions humbles, à qui il s'est révélé. On l'a dit ce matin, les bergers, hein, à qui il s'est révélé. Il a choisi des païens, ces mages sont des païens, hein, à qui il se révèle. On le voit dans le texte ici, les scribes et Hérode sont même pas au courant de ce qui se passe dans la périphérie, on pourrait dire pas très loin de Jérusalem. Beaucoup de gens étaient en mouvement, rappelez-vous, lorsque Jésus est né, puisqu'il y avait un recensement qui avait été ordonné, donc les gens se déplaçaient pour aller se faire inscrire dans leur ville, mais Jésus est né de manière quasi incognito. Il a été révélé seulement à ceux à qui Dieu a voulu le révéler, parce que Dieu est souverain dans le choix des personnes à qui il se révèle, le choix des lieux, etc. Il est souverain en toutes choses. Et on peut penser à ce que Pierre disait à Corneille, je crois que c'est Actes chapitre 10, par exemple, Actes chapitre 10, après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre dit ceci, Actes chapitre 10, il semble que c'est vers les versets 40, voilà, verset 40, il dit, verset 39, il dit, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, donc il parle de Jésus, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois, verset 40, « Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Ouais, Jésus aurait pu apparaître à tout le monde. Il me dit, mais non, il a apparu pas à tout le monde, mais seulement à ceux que Dieu a choisis d'avance. Hein? Dieu est souverain dans tous les choix qu'il fait. C'est lui qui nous choisit. Hein? C'est lui qui choisit. C'est lui qui a initié d'abord. Hein, les choses dans ces mages pour qu'ils puissent venir jusqu'à Jérusalem. Et c'est ainsi que Dieu agit. Jésus le soulignait même dans Matthieu chapitre 11 où il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les aies révélées aux enfants. Je te loue que tu l'aies voulu ainsi. » Hein? Et Jésus loue Dieu pour sa manière même de faire les choses. Le fait qu'il le fasse de manière souveraine et qu'il se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est souverain. Et il a choisi, dit l'apôtre Paul, les choses faibles du monde pour confondre les sages, les choses viles du monde, celles qui ne sont pas, celles qu'on méprise, afin que personne ne se glorifie. D'accord? Il dit, où est la sagesse des sages? Où est l'intelligence des intelligents? Il dit, Dieu les a tous confondus parce que Dieu a choisi de sauver l'homme par la prédication de la croix et pas autrement. C'est une folie pour les hommes. C'est un scandale pour les, juifs, je crois, il disait, et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés et ceux qui croient en lui. Et Dieu est souverain dans la manière de révéler même son fils. Je crois que Matthieu le souligne. Peut-être que ces gens attendaient voilà quelque chose de spectaculaire qui passerait par eux, par le centre religieux de Jérusalem. Eh bien, non, Dieu a choisi de faire autrement. Et puis, cinquièmement aussi, Matthieu montre que Jésus est donc digne d'adoration. Il est digne d'adoration. La première chose qui est dite des mages ici, c'est vraiment leur intention à l'égard de ce roi des Juifs qui vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est la raison de leur venue. Et le verset 11 nous montre qu'ils l'ont réellement aussi adoré. Quand ils voient l'étoile, ils sont remplis d'une très grande joie. Ils rentrent dans la maison, ils voient l'enfant, ils se prosternent et ils l'adorent. Puis ils lui offrent les présents qu'ils ont amenés. Le l'or, hein, qui symbolise probablement, on dit que c'est le métal des rois, hein, à l'époque, à cette époque-là. Souvenez-vous de la reine de Séba quand elle vient visiter Salomon, elle emmène, il y dit, beaucoup, beaucoup d'or, parce que voilà, c'est le présent que l'on offre au roi. Donc il y a une reconnaissance de la royauté. Ils offrent de l'encens qui était utilisé, même dans l'Ancien Testament, pour adorer, hein, symbole de l'adoration utilisé par les prêtres aussi, et puis de la myrrhe qui était utilisée pour l'embaumement. Alors certaines personnes disent que voilà, de cette manière-là, ils adorent en témoignant, en confessant la royauté, la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. On peut penser, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, je crois que là, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils apportent tout ce qu'ils ont, et ils offrent tout ce qu'ils sont même à ce petit enfant, Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire de voir un peu l'attitude de ces hommes venus de loin, leur froid, hein, pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Mais ils ont cru à ce qui leur a été annoncé à propos de ce petit enfant. Ils sont venus et ils l'ont pleinement adoré. Et l'intention de Matthieu est aussi de montrer que Jésus est digne d'être adoré comme Seigneur et comme Seigneur des Seigneurs, comme Roi des Rois aussi, non seulement par les Juifs, mais aussi par les païens. Non seulement par les Juifs, mais aussi par toutes les nations. Et dans l'évangile de Matthieu, cela est dit plusieurs fois. Matthieu chapitre 8, verset 11, il est dit, « Or, je vous déclare, c'est Jésus qui le dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » D'accord ? Il dit, dans le royaume des cieux, pardon. Donc, beaucoup de gens vont venir, des nations, Occident, Orient, et seront aussi avec Abraham et adoreront le Seigneur. Et l'ordre, la mission que Jésus laisse à ses disciples en partant, quelle est-elle ? Allez, faites de toutes les nations, hein, pas simplement des Juifs, mais de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous voulez, le fait d'englober les nations est déjà très présent dans l'Ancien Testament, hein, Ésaïe chapitre 60, par exemple, hein, il est question des nations aussi qui vont se réjouir, qui connaîtront aussi la lumière. Et donc c'est le Messie qui accomplit ce que l'Écriture a déjà annoncé, même concernant aussi les nations. Et Matthieu montre que le roi Jésus-Christ, qui est le Messie, il est digne d'être adoré par toutes les nations. Alors, je pense que c'est ça qui ressort de ce texte un peu ici. Mais quelles applications, quelles conclusions on peut tirer pour nous de cela ? Plusieurs. Premièrement, que l'Écriture est le moyen nécessaire et suffisant qui permet de rencontrer précisément Jésus-Christ. L'Écriture, c'est le moyen nécessaire et suffisant qui permet de rencontrer précisément Jésus-Christ. Les mages ont été conduits jusqu'à Jérusalem par une étoile, mais ils ont été précisément conduits à Jésus-Christ avec la déclaration de l'Écriture. « Étroit, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre entre les cités de Juda, car de toi sortira un chef. » Et ils sont allés où ? À Bethléem. D'accord. Et c'est important de considérer cela. Si vous voulez rencontrer Christ, il faut venir aux Écritures. Il faut venir aux Écritures, parce que c'est là qu'il est révélé. Ça n'est pas dans des songes qu'il faut attendre des choses. Si Dieu a bien guidé, va chercher ces hommes où ils sont, dans ce qu'ils peuvent faire. Dieu, il descend jusque là où nous sommes. Mais quand il conduit, en fait, les hommes à Jérusalem, il les conduit d'abord, pas à Jésus, mais vers la parole, vers l'Écriture. Même si l'écriture est donnée à ces hommes par des scribes qui sont restés indifférents. Mais Dieu les a conduits vers l'écriture. Lorsque un ange apparaît à Corneille, eh bien, l'ange ne lui annonce pas l'évangile. C'était étrange, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, voilà, Corneille, il faut que tu fasses, il faut que tu donnes ta vie, etc. Non, il dit, va chercher Pierre afin qu'il t'annonce l'évangile. Et lorsque Pierre arrive chez Corneille, Corneille lui dit, voilà, nous sommes là et nous voulons entendre ce que Dieu te demande de nous annoncer. Et là, c'est un apôtre, c'est l'écriture, hein, c'est qui va, il va prêcher donc ce que Dieu a dit, etc., à cette famille. Dieu conduit toujours les hommes vers l'écriture afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Il n'y a pas de connaissance véritable de Christ hors de l'écriture. Il n'y a pas de connaissance spécifique de Christ hors de l'écriture. Jésus disait, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et donc, en ce temps de Noël, je vous invite à lire les Écritures, à revenir à la parole de Dieu, à faire de la parole de Dieu l'objet de vos recherches, la joie, comme disait Jérémie, et l'allégresse de votre cœur. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la grande connaissance de faits concernant Christ n'implique pas la connaissance de Christ lui-même dans le cœur. On voit ici ces hommes qui arrivent à Jérusalem et ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et les scribes, Hérode rassemble les scribes et les sacrificateurs et puis il dit « Dites-nous où est-ce que le Messie doit naître ?» Alors je ne sais pas comment il a fait la connexion parce que les hommes sont venus, ils ont parlé du roi des Juifs qui vient de naître. Hérode a sa tournée, il a parlé du Messie tout de suite, hein, le Christ qui devait naître. Il ne dit pas pourquoi, mais il avait une certaine connaissance. Et ces hommes disent immédiatement, c'est à Bethléem, parce que l'Écriture dit ceci. Ils ont une connaissance de ce que l'Écriture dit. C'était des enseignants du peuple, c'était des scribes. Ils classaient les choses, veillaient à ce que les lois soient toujours là, toujours enseignées. Et donc, ils connaissaient toutes ces choses intellectuellement. Mais lorsque ces hommes arrivent et puis disent que bien, ce Messie, il est présent, eh bien, il ne bouge pas d'un poil, d'un iota. Il reste sur place. Hérode envoie, la Bible dit, les mages à Jérusalem, à Bethléem, pardon, mais il ne bouge pas non plus. Et donc, la connaissance de faits concernant Christ n'implique pas forcément le fait de connaître Christ. On ne doit pas se limiter au simple fait de connaître des choses concernant Christ. On doit s'assurer que l'on connaît Christ lui-même. Et peut-être nous avons grandi dans l'Église, parfois on entend des témoignages de jeunes qui disent « Je suis passé par toutes les classes de l'Église ». Alors on a beaucoup emmagasiné, beaucoup de connaissances. Mais ça ne suffit pas. On peut avoir la connaissance et rester inerte quant au fait d'aller vers Christ pour l'adorer. C'est ce que l'on voit avec Hérode et puis avec aussi les scribes. Je voudrais ajouter un peu dans le même esprit que ce ne sont pas toujours, et ça c'est une application qui a été faite par un homme qui s'appelait un évêque anglican qui s'appelait Ryle. Il dit ceci, ce ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de privilèges religieux qui offrent à Christ le plus d'honneur. C'est vrai. Ces hommes, ces scribes avaient de grands privilèges. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que les Juifs ont un avantage. Il dit que c'est un avantage indéniable. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Il dit, il est grand. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est une chose extraordinaire que d'avoir la loi de Dieu, que d'être le peuple qui a été choisi pour recevoir les oracles de Dieu. Mais il arrive que, même avec de tels privilèges, eh bien, on n'est pas les premiers à adorer et à honorer Dieu. Des mages, ignorant de beaucoup de choses, peut-être avait-il connaissance des textes de Daniel, on ne sait pas, mais de beaucoup de choses arrivent avec peu de choses et viennent adorer Dieu. Et c'est une chose assez triste que de voir que parfois on a beaucoup de privilèges, mais avec tous ces privilèges, on n'est pas très emprunt à adorer Dieu. Cet homme faisait remarquer que bien souvent, les enfants de croyants manifestent parfois peu d'intérêt pour l'Évangile par rapport aux enfants de non-croyants qui viennent à l'Évangile. Il arrive que la proximité, la familiarité avec l'Écriture, avec les choses saintes, nous laisse avec peu de chaleur dans le cœur. C'est quelque chose à laquelle nous devons faire très attention. C'est possible. Ces scribes enseignaient même. Ils avaient un contact régulier avec tout cela. Mais leur cœur n'était pas chaud pour Dieu. Les privilèges religieux que l'on a ne nous poussent pas toujours à adorer Dieu. Et puis je dirais aussi que de ce texte, on peut, ou de ces mages, on peut tirer la leçon suivante, c'est que ce n'est pas la quantité de révélation que l'on a qui est quelque chose, mais c'est ce que l'on fait avec la révélation disponible qui est importante. Ce n'est pas la quantité de révélation que l'on a qui est quelque chose, mais c'est ce que l'on fait avec la révélation qui est disponible. Ces mages n'avaient pas beaucoup de connaissances par rapport aux scribes. Mais avec le peu de connaissances qu'ils avaient, ils se sont mis en mouvement. Avec ce qu'ils avaient reçu comme révélation, ils se sont mis en mouvement. Ils ont traversé, certainement entrepris un chemin périlleux, dangereux, pour chercher Christ. Ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont adoré. Avec des centaines, je sais pas moi, deux fois moins de connaissances que les scribes. Cherchez-vous Christ de tout votre cœur. En cette période de Noël, est-ce lui que vous recherchez vraiment? Jérémie dit... Dieu dit par le prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se révèle d'abord à ses mages. Il faut que Dieu intervienne d'abord parce que personne ne cherche Dieu. Hein? Donc Dieu se révèle d'abord à ses mages, mais avec la révélation qu'ils ont, bien ils entreprennent chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent Dieu. Ils ont cru lorsque Dieu s'est révélé à eux. Ils sont partis. Ils ont cru lorsque ils ont vu Jésus, lorsque Jésus n'était qu'un enfant. Ils n'ont pas dit, attendons qu'il soit un peu plus grand pour voir si vraiment c'est... Non, ils ont vu un petit enfant. C'était tous un bébé, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qu'ils ont cru, ce à quoi ils ont cru, c'est pas simplement le fait de voir, mais c'est ce qui a été dit dans la révélation qu'ils ont eue à propos de cet enfant-là. Et c'est ça qu'ils ont, qui les a conduits jusque-là. La foi n'exige rien de plus que ce qui est révélé. La foi véritable n'exige rien de plus que ce qui est révélé. Et c'est une chose que nous devons considérer. Le brigand sur la croix n'a pas exigé de voir le palais et la couronne sur la tête de Jésus pour lui dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Il a dit cela lorsque Jésus était dans son état le plus misérable, sur une croix, ensanglanté, nu. Il a cru que cet homme est le Fils de Dieu et qu'il est le roi qui va revenir. Et il a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Parce que la foi véritable, quand elle existe, elle s'appuie sur la révélation disponible. Elle n'exige rien de plus à voir. La foi véritable, quand elle existe, nous pousse vers Dieu véritablement, avec la connaissance que l'on a. Nous avons, chers frères et sœurs, chers amis, bien plus de connaissances disponible qu'aucun personnage de la Bible. Nous avons tout ce qui est écrit là. Nous avons la révélation entière de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul lui-même écrivait, il n'avait que l'Ancien Testament. Lorsque ces mages sont venus, on ne sait même pas ce qu'ils avaient comme révélation. Nous avons toute la parole de Dieu. Et pourtant, parfois nous exigeons plus. Mais s'il y avait, qu'est-ce que nous exigeons de plus? Plus de compréhension? Parfois on dit, si je comprends davantage cela, eh bien je pourrais obéir. Non, nous devons obéir avec la révélation que nous avons. Et nous n'aurons pas plus de révélation. Hein? Nous avons la révélation complète. Dieu ne donnera pas un iota de révélation supplémentaire. Nous avons là toute la parole de Dieu. Et toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. C'est une désobéissance lorsque nous réclamons plus pour pouvoir obéir. La foi, quand elle existe, saisit la révélation disponible et elle n'exige rien de plus. Rien de plus. Mais c'est moi terminer en disant que Jésus-Christ est digne de notre adoration. Jésus-Christ est digne de notre adoration. Les mages offrent eux-mêmes à Christ et ils s'offrent eux-mêmes à Christ et ils offrent aussi leur présent à Christ. Ils reconnaissent qu'il est le roi, qu'il est Dieu, qu'il est qui leur a été révélé. Ils montrent par leur venue jusqu'à Jérusalem que Christ est digne d'être adoré, quels que soient les efforts nécessaires. Christ est digne d'être adoré, quels que soient les efforts nécessaires. Je crois que l'attitude de ces mages doit nous faire honte, parce que entreprendre un voyage, d'accord, lorsque Hérode leur demande « Depuis combien de temps vous avez vu briller l'étoile ?» Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Ils disent, etc. On ne sait pas ce qu'ils disent à Hérode, etc. Bon, nous avons vu son étoile. Okay. Ils discutent avec Hérode secrètement. Mais après, que fait Hérode? Il fait tuer les enfants depuis l'âge de 2 ans. Et puis, tout en dessous, comme ça, il est certain de ne rater personne. On peut dire peut-être que ça remontait peut-être à peu près, on n'a pas de certitude, mais à peu près à 2 ans. D'accord? Donc, ils entreprennent un long voyage qui leur a duré beaucoup de temps pour voir le Messie et pour l'adorer. Ils l'ont adoré malgré, en dépit des difficultés qu'ils ont dû traverser. Ce n'est pas des routes comme nous qu'ils ont dû traverser. Il y avait du danger, hein, des choses extraordinaires. Mais ils l'ont fait quand même. Est-ce que nous ne voulons pas adorer Dieu avec cette même attitude, cette même énergie? Sommes-nous prêts à adorer Dieu, quoi qu'il nous en coûte comme effort? Est-il digne de nos efforts? C'est ça la question. Est-ce que nous jugeons qu'il est digne que nous l'adorions avec tous nos efforts, que nous bravions la circulation, les embouteillages, que nous nous acceptions de nous réveiller plus tôt, de perdre une demi-heure de sommeil, d'être fidèle dans les réunions? Est-ce qu'il est digne de cela? Ou est-ce que nous le jugeons pas digne? Ces hommes ont jugé digne de faire des milliers de kilomètres pour venir voir, non pas un roi sur son trône, un petit enfant. Un petit enfant. Ils ont jugé digne malgré l'attitude des autres à son égard. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne trouvent pas un accueil de Jésus. Ils trouvent des gens qui ne savent même pas qu'il existe. Je ne sais pas s'ils ont compris qu'Hérode voulait le tuer ou pas, mais bon, ils ont dû trouver étrange que ces hommes qui connaissent les textes ne viennent pas avec eux adorer ce roi des Juifs qui vient de naître. Ils sont restés indifférents, cruels. Mais eux, ces mages, ils sont allés adorer Jésus malgré l'indifférence des autres. Parfois, nous nous laissons un peu, n'est-ce pas, les autres, ils ont beaucoup d'influence sur nous. Hein, okay, on veut faire les choses, mais
les autres. On veut aller à une réunion, mais est-ce que tu vas y aller? Est-ce qu'un tel vient? Enfin, on invite des gens à une réunion, mais est-ce qu'un tel va venir ou pas? Et en fait, on va y aller suivant que les autres vont ou ne vont pas. C'est pas comme cela que l'on adore Dieu. On adore Dieu en dépit de ce que les autres font. S'ils restent indifférents, c'est leur problème. Moi, il faut que je l'adore. Il est digne que je l'adore en dépit même de l'indifférence que peuvent manifester les autres. Et puis, je termine avec cela, il est digne d'adoration malgré l'humilité que cela exige. Ces mages, qui étaient des personnages quand même d'une certaine importance, sont venus et se sont prosternés devant un bébé. Un bébé. Un enfant, un petit enfant en tout cas. Bon. Et ils n'ont pas dit, ah non, ça sert à moi, je me prosterne devant des personnages importants, mais non, non. Et l'évangile exige, quand on s'approche de Christ, que nous soyons dans l'humilité. Des gens disent, j'ai entendu un philosophe dire, qu'est-ce que l'évangile a à proposer aux gens? Un Christ, un corps crucifié. Il a regardé cela avec du mépris. Du mépris. C'est trop humiliant. Mais on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu a choisi d'humilier les hommes ainsi. Celui qui veut s'approcher de Christ, il doit venir dans l'humilité aussi. Dans l'humilité. Et accepter Christ tel qu'il est. Pour l'accepter comme Seigneur, il faut l'accepter tel qu'il a été révélé, tel qu'il a agi, tel qu'il s'est montré dans l'Écriture. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Nous avons vu l'adoration des mages. Quelle est notre adoration en ce temps de Noël? Prions. Merci Seigneur pour ta parole et je te prie que tu nous aides et que tu nous donnes encore de méditer ces choses, de voir ces exemples que tu nous donnes dans ta parole, que cela puisse conduire nos cœurs dans une véritable adoration. Apprends-nous à t'aimer et à t'adorer comme tu en es digne. Seigneur, illumine nos cœurs, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent venir à toi. Nul ne peut venir à toi, à moins que tu ne l'attires, et nous te prions de toucher des cœurs en cette période même, en ce jour même, et de les conduire à toi dans ta grâce, afin qu'ils t'adorent comme tu le mérites. Nous te prions cela en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.